Je suis heureux de vous retrouver ce matin et d'avoir ce privilège d'annoncer la parole de Dieu. Ce matin, je vais vous parler d'un thème délicat, sensible, compliqué. Nous allons parler de sainteté, de la nécessité d'avancer dans la sanctification. Et c'est un thème délicat dans la mesure où je me rends moi-même compte de tout le progrès que j'ai encore à faire pour avancer en direction de la sainteté. Si je le fais, c'est que je sais aussi que Christ m'a pardonné tous mes péchés et qu'il m'accorde sa grâce. Et j'ai besoin de cette grâce, comme chacun d'entre nous. Le prédicateur Charles Spurgeon, quand il s'avançait pour prêcher, faisait apparemment chaque fois cette même prière. Il disait: « Ô Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. » Il m'est arrivé de devoir prêcher alors que je passais par des moments difficiles, avec des combats, avec des luttes intérieures. Et je me souviens n'avoir pas su comment j'allais pouvoir me tenir debout devant l'assemblée devant laquelle je prêchais. Comment j'allais pouvoir exposer la pensée de Dieu. Et je m'étais demandé, mais suis-je vraiment en droit de monter en chair? Suis-je légitime pour le faire? Est-ce que je ne devrais pas céder ma place à quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu pourra bénir sa parole qui est dite au travers d'un serviteur si chancelant? Chaque fois, je me suis approché de Dieu. Je lui ai demandé que son esprit puisse utiliser mes bien faibles mots et quand même parler au cœur de chacun. Et chaque fois, Dieu m'a donné cette force de quand même me tenir debout alors que je croyais que je n'allais pas y arriver. Il y a un célèbre missionnaire qui s'appelle William Carey, vous avez sans doute déjà entendu parler de lui, qui est considéré comme le père des missions modernes. Et il a dit ceci au soir de sa vie. Il a dit: « Je fête aujourd'hui mes 70 ans. » Il est décédé à 73 ans. Il a dit: « Je fête aujourd'hui mes 70 ans. Je suis un exemple de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Et pourtant, si je regarde à ma vie écoulée, il me semble que je mériterais davantage, bien davantage, d'être humilié dans la poussière. Mes péchés francs et incontestables sont innombrables. J'ai considérablement négligé l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas soutenu sa cause, ni cherché sa gloire et son honneur autant que j'aurais dû. Et malgré tout, j'ai été épargné jusqu'ici et maintenu dans son œuvre. Et j'ai confiance d'être dans la faveur divine grâce à lui. » Carey est parti en Inde en 1793. Il a traduit la Bible ou des parties de la Bible dans plus de 40 langues et dialectes. Il était un homme de foi remarquable. Il avait une capacité à persévérer contre tout et envers tout et contre tout. Il avait du courage, un tel courage que cela l'a poussé à terminer tout ce qu'il entreprenait. Et on peut se demander comment, à 70 ans, peu avant sa mort, il regrette son état de péché et ses manquements. En fait, pourquoi ne regarde-t-il pas en arrière, en étant fier de tout ce qui a pu être accompli pour le nom du Seigneur? Est-ce qu'il est humble à l'excès? Aurait-il peut-être une mauvaise estime de lui-même? Serait-il légèrement dépressif? Ou alors est-ce qu'au contraire, sa spiritualité est un exemple, un modèle que nous devrions suivre? Et ce ne sont pas des questions théoriques que je vous pose là, ce sont des questions qui sont au cœur de la vie du croyant. L'attitude opposée à celle de Carey consisterait à être très satisfait de la manière dont on vit son engagement avec Dieu. Et c'est vrai que l'on peut vite trouver que l'on est un bon chrétien, quand on lit sa Bible tous les jours, que l'on va à l'église chaque dimanche, que l'on est impliqué dans une activité ou des projets de l'église, que l'on croit dans les bonnes doctrines, que l'on parle de l'évangile à ses voisins, que l'on donne la dîme de tous ses revenus. Ce sont des bonnes choses. Mais parfois, ces bonnes choses sont accompagnées d'une attitude de supériorité, voire parfois même d'une attitude d'arrogance ou de mépris à l'égard de ceux qui n'en sont pas encore là où nous en serions. Et l'on risque d'oublier que l'on est soi-même un pécheur, que l'on est tous pécheurs et que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Je vous invite à écouter cette parabole. Parabole que Jésus a dite et que l'on trouve en Luc 18, versets 9 à 14. Voici ce qu'il est écrit. Jésus raconta une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Je vous l'assure, » dit Jésus, « c'est ce dernier, et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Le pharisien était un homme très religieux, très engagé, exemplaire de multiples manières. Il était exemplaire dans sa manière d'observer la loi de Dieu. Il jeûnait 2 jours par semaine. Il allait régulièrement au temple. Il priait publiquement. Il était généreux. Il avait bonne réputation. Il avait de bonnes mœurs. Mais il avait un défaut. C'est qu'il était prétentieux et qu'il était un propre juste. Cet homme ne comprenait pas qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et par contre, le collecteur d'impôts est conscient de son péché. Et il est conscient du besoin de la grâce de Dieu. Lui ne s'inquiète pas de ce que les autres vont penser de sa prière. Il est préoccupé de la justice de Dieu. Jésus nous dit que Dieu a entendu la prière de ce collecteur d'impôts, qu'il l'a pardonné et qu'il lui a fait grâce. Je ne sais pas comment vous êtes quand vous lisez cette parabole, que vous connaissez sans doute. Mais souvent, nous nous plaçons spontanément du côté du collecteur d'impôts. Et nous pensons être bien différents du pharisien. Et pourtant, Jésus a raconté cette parabole pour tous les gens qui sont bien religieux, qui se sentent plutôt performants et qui ont confiance dans leurs actes et dans leurs paroles. Or, dans les églises, assez facilement, nous pouvons reconnaître ceux qui sont tombés dans les péchés les plus évidents, souvent des péchés d'ordre sexuel ou matériel ou des dépendances. Et nous pouvons d'ailleurs être assez prompts à les condamner et de se dire peut-être qu'en comparaison, nous sommes plutôt de bons chrétiens. Notre vie est plutôt bonne. Et paradoxalement, nous sommes plutôt muets sur d'autres formes de péché, beaucoup plus sournois, qui sont moins directement visibles et qui pourtant sont mentionnés régulièrement dans le Nouveau Testament, des péchés qu'on est tous susceptibles de commettre. Un de ces péchés s'appelle l'esprit de jugement. On rentre par exemple à la maison après le culte et autour de la table, on commence à critiquer tout ce qui n'était pas bien, tout ce qui n'était pas à notre goût. et le comportement de telle personne, l'attitude de telle autre. Pourtant, Jésus nous a dit, « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ?» Tout ce qui est de l'ordre des ragots, de la médisance, le fait d'aller raconter les péchés et les malheurs des autres, tout cela n'est pas à la gloire de Dieu. Et pourtant, il a pu nous arriver à tous de critiquer une fois un frère, une sœur, dans son dos. Je ne dis pas que toute critique est injustifiée, mais si nous avons quelque chose à dire à quelqu'un, il s'agit d'aller voir cette personne, de lui en parler, parce que le but, c'est de l'aider à progresser dans sa marche avec le Seigneur. Et pour cela, il faut beaucoup de tact, beaucoup d'amour, mais il s'agit d'aller rencontrer la personne. Malheureusement, souvent, nous blessons avec notre langue. Et c'est pour cela qu'il y a tant d'avertissements dans le Nouveau Testament. J'en prends un, celui de Paul qui dit, Éphésiens 4, 29, « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. » En fait, quand nous nous apercevons que nous avons mal agi, c'est que l'Esprit de Dieu nous y a convaincus. Il nous a montré que là, nous aurions dû faire différemment. Quand c'est le cas, nous sommes invités à nous humilier et à demander pardon. Est-ce qu'il y a d'autres péchés comme cela qui sont des péchés que j'appellerais des péchés subtils ou des péchés mignons, de ceux que nous tolérons assez facilement chez nous ou dans l'Assemblée? La liste du Nouveau Testament est longue. Elle évoque par exemple le ressentiment, l'amertume, le manque de pardon, l'impatience, l'irritabilité. Et chaque fois que cela se produit, l'Écriture nous dit que nous attristons l'Esprit de Dieu. Malheureusement, il peut nous arriver de commettre ces péchés presque par habitude, sans qu'on en éprouve plus aucune culpabilité. Nous nous sommes tellement habitués à cela que nous nous disons que ça fait partie de notre personnalité, que nous sommes faits comme cela, que de toute façon on ne pourra pas changer, on ne pourra rien y faire, et nous ne percevons plus le scandale que représente le péché. Le péché, c'est une forme de rébellion contre Dieu, contre sa loi. Et quand on pêche de la sorte, tout en cherchant à nous justifier, eh bien, nous dédaignons en quelque sorte la parole de Dieu, ce qui est écrit. Nous la reléguons au second plan. Or, la parole de Dieu représente l'intention, la volonté du Seigneur. Donc, si nous ne l'observons pas, nous mettons en quelque sorte l'autorité de Dieu en doute ou l'autorité de sa parole. C'est un scandale. Mais est-ce que je perçois encore le scandale que cela représente? Et si je continue mon enquête sur ces péchés mignons, ces péchés subtils, on pourrait évoquer l'égocentrisme, l'ambition, l'ambition égoïste, parfois même dans le ministère chrétien, pour évoquer l'orgueil qui est tellement subtil et tellement présente, l'amour du pouvoir, que l'on rencontre si souvent aussi dans les églises, ou le plaisir de recevoir des éloges, ou la volonté de manipuler des événements pour parvenir à nos fins. Je pourrais rajouter le péché d'indifférence, la convoitise des biens matériels, l'avarice qui empêche la générosité pour l'œuvre de Dieu. Je dois bien vous avouer qu'en préparant ce message, je me suis retrouvé face à moi-même, face à mes propres incohérences, face à mon propre péché. J'ai dû aller demander pardon à mon épouse. Et oui, dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, je suis moi-même aussi parfois un pharisien. On pourrait rajouter tous les péchés aussi qui ont lieu dans nos pensées, simplement, dans notre cœur. Et cela nous invite à croire que le péché est radical, que nous n'arriverons jamais à l'extirper complètement de notre vie. Qui pourrait penser avoir des pensées toujours pures ? Qui pourrait dire que ces actes sont toujours motivés par de nobles sentiments et des sentiments purs ? Personne. Personne ne peut se soustraire à la radicalité du péché dans sa vie. Personne ne peut atteindre les exigences divines. En fait, il y a une incapacité fondamentale en chacun de nous d'être à la hauteur de ce que nous devrions être. Qui pourrait dire qu'il a les traits parfaits du chrétien, qu'il est toujours rempli d'amour, plein de douceur, de bonté, de patience, d'humilité. Et c'est pour cela, si je reviens à William Carré et à cette lettre qu'il écrivait vers la fin de sa vie, c'est pour cela que je pense que ce n'était pas de la fausse humilité chez lui, ni les traits d'un caractère où il aurait manqué d'estime de lui-même, mais c'est bien le témoignage d'un homme qui est lucide sur lui-même, qui sait qu'il ne mérite pas le pardon de Dieu, mais en même temps, qui peut affirmer que Dieu l'a aimé, qu'il lui a pardonné tous ses péchés par pure grâce, sans aucun mérite de sa part. William Carré a fait preuve d'humilité. Il ne s'est pas enorgueilli de toutes ses performances spirituelles. Et pour cela, Dieu lui a accordé sa justice et il l'a revêtu de sa sainteté. J'aimerais lever ici un possible malentendu quand on parle de la sorte. Ce n'est pas parce que Dieu a pardonné toutes nos fautes qu'il ne se soucie pas de savoir si nous lui obéissons ou non. Très clairement, l'Écriture nous demande d'obéir au Seigneur et Paul nous dit que quand nous n'obéissons pas au Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. Nos péchés attristent le Saint-Esprit. Quand Paul en parle, il le met surtout en relation, en lien avec des péchés qui offensent ou qui ont des conséquences sur les autres, qui les lèsent. Le vol, une colère non maîtrisée, une amertume qui se transforme en paroles mauvaises, etc. En Éphésiens 4, 30, il dit ceci, « Car par cet esprit, l'esprit de Dieu, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Et oui, nous appartenons à Dieu, nous sommes la propriété de Dieu, et nous ne pouvons pas mener notre vie n'importe comment. C'est important pour Dieu que nous puissions être conformes à l'image de son Fils. Donc nous devons nous éloigner du péché. Mais encore une fois, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos performances spirituelles. Si nous sommes lucides sur nous-mêmes, nous constatons que même nos actions les plus remarquables ne sont pas dénuées d'ambiguïté. Même l'engagement bénévole le plus remarquable n'est pas totalement dépourvu de motivations qui ont une certaine part d'ambiguïté. On s'engage, certes, pour le Seigneur, mais on y trouve très souvent aussi une motivation personnelle, peut-être pour chercher à se réconforter soi-même, pour avoir de l'estime des autres. Il y a très souvent une part personnelle dans notre engagement. Nos plus belles actions sont imparfaites. Et c'est pourquoi la sanctification est si étroitement liée à la grâce de Dieu. Nous avons besoin du pardon de Jésus dans notre vie chrétienne, parce que nous ne serons jamais à la hauteur par nous-mêmes. Vous savez, le message de la grâce de Dieu ne s'adresse pas seulement à ceux qui étaient pécheurs et qui se repentent. Oui, bien sûr, cette grâce-là, la grâce du salut initial, est une grâce importante. Mais la grâce de Dieu doit continuer de se déployer dans la vie du croyant. Assez souvent, nous avons tendance à penser que Ce qui compte, c'est d'abord de prêcher l'évangile aux non-croyants, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Seigneur. Et dès lors qu'ils ont rencontré le Seigneur, nous allons prêcher le discipulat. Comment devenir disciple de Jésus? Comment avancer dans la sainteté? Comment servir le Seigneur? Mais le discipulat ne peut pas se vivre hors de la grâce de Dieu. Nous devons donc continuer de prêcher l'évangile, même lorsque nous sommes croyants. Il y a trop de croyants qui pensent qu'ils ne méritent plus la faveur de Dieu parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à être de bons disciples de Jésus-Christ, qu'ils ont de la peine à vivre dans la sainteté. Alors, ils se mettent à désespérer, ils perdent courage, ils démissionnent parfois même de leurs engagements chrétiens et c'est vraiment regrettable. Parce que s'ils avaient entendu et compris le message de la grâce divine, ils auraient pu continuer dans leur service chrétien. Ils auraient pu servir Dieu avec joie. Quand on est capable de reconnaître que nous sommes pécheurs, que l'on s'approche de Dieu, que l'on expérimente le pardon de Dieu et sa grâce, nous savons que nous sommes libres d'avancer avec le Seigneur. Nous n'expérimentons plus le poids d'une culpabilité qui ferait que nous nous découragions et que nous arrêtions dans le ministère. Oui, je suis un pécheur, mais un pécheur qui a été pardonné. Du coup, toutes les exigences de la vie chrétienne ne sont plus une corvée, mais c'est la manifestation de ma reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Jerry Bridge, dans son livre « À l'école de la grâce », a dit ceci. « Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Et vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. » Cette grâce, nous pouvons facilement l'oublier. Et ainsi devenir fier de notre vie chrétienne, tomber dans cette ornière du pharisien. Ou alors nous pouvons tomber dans cette culpabilité contre laquelle nous nous battons et dans des sentiments d'échec. Comment mener notre vie chrétienne? Que faire? Le seul moyen d'avancer dans la vie chrétienne, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Chaque fois que Dieu nous révèle un dysfonctionnement, chaque fois que Dieu nous révèle un péché, il faut pouvoir le nommer par son nom, reconnaître ce péché tel qu'il est, sans chercher à l'étouffer, sans chercher à l'excuser. Mais ensuite, il faut aussi recevoir le plein pardon de Dieu. Dieu nous a pardonnés grâce au sang de Jésus qui était versé à la croix et qui nous a lavés de toutes nos souillures. J'entends certains déjà me dire, mais c'est trop facile. Si Jésus nous pardonne aussi facilement de tous nos péchés, est-ce que ce n'est pas un encouragement à continuer de pécher? Est-ce que cela n'encourage pas certains chrétiens à la négligence spirituelle? Oui, peut-être. Il est possible que certains chrétiens aillent en direction d'une négligence et ne soient pas assez attentifs à ce que Dieu demande. Mais en même temps, ce n'est pas parce que certains abuseraient de la grâce de Dieu qu'il faut taire ce message de la grâce de Dieu. C'est une vérité qu'on doit proclamer haut et fort, parce qu'elle est centrale dans notre vie. Pour ceux qui sont en butte à de la culpabilité, au sentiment d'échec, qui ont l'impression de ne plus entendre Dieu, que Dieu se serait éloigné d'eux parce qu'ils ne sont pas dignes de lui, il ne s'agit pas d'enfoncer ces personnes davantage encore dans leur péché et sous le poids de la culpabilité. Il faut leur annoncer la grâce et dire que Dieu leur a pardonné, qu'il suffit qu'ils restent dans l'alliance avec lui. J'aimerais arriver à ma conclusion. Qu'est-ce qui va nous motiver à grandir dans la sainteté? Qu'est-ce qui va nous motiver à grandir dans la sainteté. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Le message de l'Évangile va à contresens de ce qui pourrait nous sembler naturel. Dieu ne nous accorde pas sa faveur parce que nous l'aurions mérité. Il nous a déjà aimés alors même que nous étions encore rebelles, que nous offensions Dieu, que nous étions ses ennemis. Déjà là, il nous a aimés. Mais c'est un message tellement difficile à comprendre que souvent nous luttons toute notre vie pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Nous voulons mériter son amour. Mes frères et mes sœurs, en faisant ainsi, nous nous fatiguons. Parce que c'est une vie qui nécessite beaucoup d'efforts. Une vie qui nécessite de se montrer toujours à la hauteur, alors que jamais nous n'y arriverons. Cela peut même conduire à des psychoses, quand certains chaque matin se lèvent et se disent qu'ils doivent gagner la faveur de Dieu au cours de la journée et qu'ils doivent faire leurs preuves. Le message de l'Évangile que je veux rappeler ce matin, c'est de dire que Dieu n'est pas contre toi, Dieu est pour toi. Il est de ton côté. Il est de ton côté quand tu réussis, mais aussi quand tu échoues. Dieu est pour toi quand tu partages ta foi avec des voisins, avec des collègues, avec d'autres personnes, mais il est aussi avec toi quand tu le renies. Dieu est pour toi, il ne t'abandonne pas, il est de ton côté. La Bible nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, rien ni personne. Est-ce que Dieu veut que je prenne du temps régulièrement avec lui dans la prière, que je lise la Bible, que j'aille fidèlement au culte, que je partage ma foi avec les autres, que je sois généreux? Mais oui, bien sûr. Mais si je fais tout cela, Dieu ne pourra pas m'aimer davantage qu'il ne m'aime déjà. Et si je ne fais pas tout cela, Dieu ne m'aimera pas moins. Il est mon Père, il est notre Père céleste. Dieu nous aime d'un amour sans faille. Nous n'avons pas besoin de le mériter. Nous n'avons rien à prouver. Il nous donne simplement son amour. Comme un père peut aimer ses enfants, Dieu nous donne ce même amour. Imaginez un père qui va le soir border ses enfants au lit, qui leur fait encore un câlin et qui leur dit « Je t'aime ». Eh bien, notre Père céleste est comme cela pour ses enfants. Ce matin, le Seigneur te dit, je connais tout de toi. Je connais tout de toi. Et je t'aime. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre degré de perfection. Ce matin, ma prière, c'est que nous puissions tous vivre ce message libérateur de l'Évangile. Et qu'en retour, nous puissions nous engager par amour pour Dieu, dans une vie de sainteté, dans une vie de service, conscient que la grâce de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Amen.